no planet B. There is no planet blah. Blah, 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 blah.
Ce qui sortira de cette convention, je m'y engage, sera soumis sans filtre.
Hey, Gopanado.
Climat de lutte, c'est l'émission de l'écologie en lutte tous les jeudis soirs sur la clé des ondes 90.10 de 19h à 20h et en rediffusion le vendredi de 13h à 14h. Ce soir, Climat de lutte donne carte blanche à Minuit décousu. Minuit décousu, c'est une heure de son, d'histoire, de bidouille sonore, avant d'éteindre les lumières et d'en découdre avec la nuit. C'est tous les mardis soirs sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. Vous pouvez l'écouter sur 102.2 MHz si vous êtes près de Lyon. Mais sinon, il vous faut allumer l'ordinateur et taper radiocanu.org/émission/minuit-décousu. Il fut un temps où la Clé des Ondes diffusait une autre émission de cette belle Radio Canu, Mayday, et nous regrettons bien ce temps. Écoutons Minuit décousu se présenter.
Jusque quelle heure ?
Minuit.
Bonne nuit au mauvais garçon.
Et alors justement, plus un souvenir est enlevé, enfin c'est plus est présent. Parce qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de souvenir en fait.
Minuit décousu.
La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux, Saint-Priest, Décines, Vénitieux, Lyon.
On est encore réveillés sur Canu.
Si on l'évoque, s'il y avait une image pour le montrer, ce serait mieux sans doute.
Vous savez qu'il y a une légende terriblement érotique ou radiophonique qui dit que nous ne nous connaîtrons vraiment que lorsque nous aurons fait ensemble le tour complet du cadran.
Il est 23h23.
C'est débrancher ses oreilles du monde.
Il est 23h54.
Pour les rebrancher sur un autre.
La radio la nuit, ouais, il y a un truc, il y a quelque chose de particulier, quoi.
Va-t-elle s'échouer quelque part, exploser en cours de route, fondre dans notre nuit noire? Comète venue d'ailleurs, est-ce que quelqu'un t'envoie?
Dans l'obscurité, les ondes radio se propagent plus loin.
Ça nous ferait vraiment plaisir de vous entendre, d'entendre vos histoires à vous aussi. C'est Minuit décousu qui te parle.
On va se laisser porter dans la nuit.
Il est 3h.
La radio de nuit n'est pas mineure. Alors il y a moins de monde, mais je trouve que c'est des gens intéressants aussi parce qu'ils écoutent vraiment, ils sont vraiment là.
Ce mardi 24 septembre, Minuit décousu a diffusé un documentaire « Coups humains » sur la traversée des luttes de l'eau qui a eu lieu du 2 au 8 septembre. Initié par le collectif Bassine Non Merci dans le cadre de la saison 7 des soulèvements de la Terre, un convoi a pris la route pour une grande traversée de la Venise verte du Marais Poitevin jusqu'à Vicenza, la Sérénissime, où du 5 au 8 septembre s'est déroulé un camp climat. Cette traversée des luttes pour l'eau a pour objectif d'alerter sur les enjeux d'accaparement et de pollution des eaux, de renforcer les liens entre différentes résistances populaires face au durcissement des violences d'État et de construire un mouvement de défense de l'eau par-delà les frontières nationales. Elle a été organisée en 5 étapes emblématiques en Limagne avec BNM 63, à Grenoble avec le collectif ST Micro, au bord du lac de Serponçon, dans la vallée de Briançon et dans le Val de Souza. Autant de luttes que nous avons évoquées dans plusieurs émissions de Climat de lutte. Cette traversée de 1300 km a permis de renforcer les liens entre les mouvements de défense de l'eau et d'échanger autour des perspectives communes à donner à ces luttes. Le documentaire qui va suivre est le fruit d'une autre aventure parallèle, celle des radios d'intervention que créent les collectifs pour partager ces moments avec le plus grand nombre et garder trace de nos luttes. Nous avons déjà évoqué l'histoire de ces radios éphémères dans une émission animée par Antoine Chao et enregistrée au Festival Longueur d'onde à Brest, depuis Radio Klaxon à Notre-Dame-des-Landes, une radio pirate qui s'était invitée sur le canal de Vinci Autoroute. De nombreuses formes de radio ont vu le jour. À Sainte-Soline, Climat de Lutte a participé déjà à 2 éditions de ce qu'on a appelé la méga radio, à Radio Résistante sur le plateau du Larzac ensuite, et à Mel cet été, une autre méga radio qui a couvert tous les événements du village de l'eau au mois de juillet, qui ont été diffusés en stream, comme on dit, sur le web en flux. Et c'est cette méga radio qui s'est reconstituée comme un blob qui se déforme et se réadapte à chaque nouvelle étape. Une équipe de monteurs son aux quatre coins de la France, une boucle signal dédiée où les participants peuvent laisser des pastilles sonores, des reporters sur place qui envoient eux aussi leur son, le savoir-faire de quelques geeks, beaucoup d'ingéniosité et d'envie de partage. Voilà, et ce sont les sons de cette méga radio de la traversée des luttes que Minuit Décousu a savamment mixé pour créer le documentaire que vous allez entendre.
Si le Marais Poitevin est la Venise verte, Venise est sans doute le Poitou bleu.
Alors on part jusqu'en Italie parce qu'il y a d'autres questions sur l'eau qui se posent aussi de l'autre côté des Alpes. Et les Italiens sont venus ici, nous on est ravis d'aller les retrouver et de les re-rencontrer. Et on va faire cette étape en France et en Italie.
On peut m'appeler Balou par exemple. Et je suis allé dans cette traversée parce que j'étais à Sainte-Soline et bien évidemment j'ai été comme tout le monde très marqué par ce qui s'est passé là-bas. Ça m'a bien traumatisé évidemment, mais ça m'a aussi donné de l'énergie pour continuer à s'organiser avec les autres. Parce que je pense qu'il n'y a que ça qu'on peut faire. Quand on m'a parlé de cette idée de faire une traversée des luttes sur l'eau jusqu'à Venise, j'ai trouvé ça un peu fou, mais je me suis dit, ah, c'est trop bien. Et ben moi ça a commencé par retrouver le convoi qui venait de partir du Marais, et moi je suis un peu à côté du Marais, mais bref, pour des raisons pratiques, j'étais pas au tout départ, donc je les ai retrouvés le lundi. Donc on leur a couru un peu après toute la matinée, mais on a fini par les retrouver et manger ensemble le midi. On est au bord d'une petite rivière, il n'y avait pas beaucoup de monde, c'était marrant.
La lutte elle est partie d'ici. C'est pour ça. Le collectif Bassine Non Merci a été créé dans le Marais. C'est les gens du Marais. Enfin, certaines personnes du Marais qui se sont bougées, ça part de là. Puisque le Marais est considéré en fait comme une grande bassine naturelle. Pourquoi les créer des bassines artificielles alors qu'on en a une extraordinaire là? Faut arrêter de faire les apprentis sorciers. Mais il y a du boulot, hein. T'as vu ça?
L'idée c'était de symboliquement partir de la Sèvre et du Marais Poitevin où la lutte sur les méga bassines a démarré maintenant il y a 8 ans, de marquer le coup avec ce bateau pour symboliser un petit peu cette alliance et ces camaraderies qui sont en train de se construire avec les camarades italiens notamment. Il y avait cette volonté de partir symboliquement de là où ça a démarré.
35 km, sorti quoi?
Sorti ha.
On fonctionne avec des talkies dans le convoi et Jules fait des blagues.
Mais on n'a rien entendu malheureusement à cause du grésillement.
Sorti A1. A-H.
Tu me fais trop pitié, tu me fous, vas-y pas A1.
Ça, c'est ouais, I like it. Nous, on est en plein enregistrement là. Si tu t'es connu dans le micro, ça sera vraiment la peine.
Le premier jour, on a fait un pique-nique au bord d'une rivière, c'était joli. On a dû retenir Julien pour pas qu'il veuille mettre déjà sa barque à l'eau, parce qu'il avait vraiment envie de la mettre dans l'eau. Et après, on est allé le soir à Billon. Billon, c'est un bled à côté de Clermont-Ferrand, où la municipalité a mis à disposition un ancien collège qui est magnifique. Donc là, c'était plutôt BNM 63 qui organisait, parce qu'ils ont des projets de bassines aussi à côté de chez eux.
Je suis là parce que je viens du Puy-de-Dôme, je fais mes études ici, et donc il y a la lutte à Billon. compte les 2 mégabassines, les 2 gigabassines même. Et donc voilà, ça fait plusieurs mois que je suis cette lutte. Et puis je suis venu le 11 mai comme beaucoup de gens. Et donc voilà, je suis venu pour ça. Et pour là relancer un peu ce collectif qui fait beaucoup de choses, même si le projet, on ne sait pas trop comment il va avancer. Mais on continue, montrer qu'on continue d'être mobilisé et qu'on est là aussi pour accueillir le convoi de l'eau qui va jusqu'à Venise.
Il y a des belles rivières aussi, des belles forêts, et là, ils veulent faire une mine de lithium énorme, gigantesque. Pourquoi ? Pour la transition énergétique, qui n'a rien d'une transition d'ailleurs. On a créé une association qui s'appelle Stop Mine 03. Et on est plusieurs associations à militer contre ce projet parce qu'il y a aussi Préservons la forêt des Colettes qui s'était battue contre l'implantation d'éoliennes industrielles dans la forêt, une superbe forêt. Et ils ont gagné. Et quand il y a eu ce projet de mine qui est apparu, ils se sont réveillés et ils se sont mis au front. Il y a aussi Non au quai de chargement à Saint-Bonnet et il y a aussi une association à Montluçon, là où doit être l'usine de conversion.
On se retrouve encore dans la queue de la cantine à Billon. Le repas a l'air super bon et je suis à côté de quelqu'un. Est-ce que tu veux nous dire... Ah bah ça chante encore.
Comment ça, on est les derniers ?
Il y avait une Clio rouge là,
c'est... Juste après le lycée.
Il fallait tourner quelque part ?
Fallait tourner avant les arbres.
Ah merde !
Avant les platanes.
C'est un échec.
Ensuite, le lendemain, je pense qu'on est parti à Grenoble direct, si je me trompe pas. Ouais. Grenoble midi à l'université autogérée, dont le nom laisse penser un énorme truc. En fait, c'est un petit local qui fait beaucoup de réparations vélo, mais c'était chouette. On a rencontré des gens de Stop Micro à cet endroit-là.
Ce soir, c'est l'étape No Gio. On va être à 7h. Il y a, à partir de 17h, accueil du convoi, fanfare et brigade. 8h30, apéro, abordage.
On est le collectif Stop Micro et on est une lutte qui s'est montée initialement pour protester contre les extension de deux usines de microélectronique qui sont ST Microélectronics et Soitec, qui se situent à une vingtaine de kilomètres de Grenoble. C'était principalement sur la question de l'eau que le mouvement s'est fédéré au début, parce que c'est des usines qui consomment énormément d'eau. Et en fait, ce qu'on essaye de montrer, c'est que vraiment ces industries-là, elles se sont saisies de ce concept de transition écologique pour ouvrir un nouveau marché de l'énergie, de la consommation. En fait, quand on a notre smartphone, par exemple, dans les mains, il est tout beau, tout lisse et on ne se rend pas du tout compte de l'impact que ça a. Il y a un besoin en métaux qui est énorme, auquel la planète ne peut pas du tout subvenir et qui se fait avec des pratiques vraiment coloniales. Et on essaye de montrer que la transition écologique, elle ne peut pas passer par le numérique et encore moins par l'industrie de la microélectronique.
Un des centres névralgiques de cet écosystème, c'est le commissariat à l'énergie atomique, donc un laboratoire public. Le slogan de ce laboratoire est assez représentatif de l'esprit et du modèle grenoblois, donc c'est de la recherche à l'industrie. En fait, dès le départ, donc, quand il s'est implanté en 56, le but c'est de développer des technologies pour qu'ensuite des start-up puissent les reprendre et que ça favorise l'économie de la région, etc. Donc, et par exemple, ST Microelectronics et Soitec sont deux entreprises qui sont issues de fusion et qui à l'origine étaient des start-up issues du CEA.
Le processus de fabrication des puces, c'est qu'elles vont être gravées à plusieurs reprises avec des produits chimiques. Et entre chaque phase de gravage avec un produit chimique différent, il faut rincer ces puces avec de l'eau qui doit être ultra pure, d'où l'implantation des usines à Grenoble, parce qu'en fait c'est de l'eau qui provient directement des glaciers des Alpes, parce qu'elles se fournissent sur le réseau d'eau potable de la ville de Grenoble. Et c'est aussi pour ça que l'eau ensuite elle ressort polluée, parce qu'à chaque fois ils rincent un produit chimique différent et l'eau elle est ensuite rejetée dans les airs. Et PFAS justement, c'est une enquête qu'on a commencé très récemment. C'est des polluants éternels, donc le gros scandale c'était les poêles Tefal notamment. Et en fait c'est utilisé par ces industries parce que vu tous les produits chimiques qu'elles utilisent, elles sont obligées de protéger leurs tuyaux avec justement ces PFAS. Ça permet de protéger les tuyaux. Concernant la plateforme chimique donc, qui est au sud de Grenoble, justement, et ben, les prélèvements qui ont été faits sur la nappe phréatique qui est juste en dessous de cette plateforme, c'est qu'elle est devenue complètement impropre à toute utilisation, mais c'est même pas qu'elle est plus potable, c'est juste qu'elle est complètement polluée. Et en fait, il y a un phénomène de la nappe d'eau potable qui est juste à côté, et il y a un risque de reversement de la nappe polluée dans la nappe d'eau potable, ce qui fait que les usines sont obligées par les pouvoirs publics à constamment pomper cette nappe pour pas que le niveau dépasse et crée un reversement et qui enverrait toute l'eau polluée dans la nappe d'eau potable.
Et ben pour l'instant, c'est la préparation du repas. Toutes les terres fertiles n'ont pas été encore bétonnées autour de l'Isère, parce que enfin, on est sur un campus qui a justement bétonné et asséché les marais alors qu'il y avait des jardins ouvriers avant, mais il reste des petits bouts de terrain qu'on cultive avec un champ collectif qui, dont l'objectif est de nourrir un petit peu les luttes. Et donc là justement bah, on a ramassé les patates, les courges, les figues, etc. du jardin, et on prépare à l'université autogérée un grand repas pour les accueillir.
Après Grenoble, on est allé au lac de Serre-Ponçon, où on a dormi, où on a été accueillis par une fanfare qui nous attendait depuis 2 heures sous la pluie. Ils étaient motivés, etc. Et vraiment, c'était chouette, c'était vachement agréable. On a toujours été super bien accueillis dans tous les endroits.
Alors on peut remercier, on pourra décerner à Laurent Wauquiez et à Renaud Muselier le titre de champion olympique du déni climatique, parce que pour organiser les Jeux olympiques d'hiver, quand il n'y a plus d'hiver, il fallait vraiment y penser. Ah quoi, qui c'est qui a un cocktail Molotov? Il y a les gens des soulèvements là. Les soulèvements, vous n'avez pas un cocktail Molotov dans vos trucs? Ouais, qui viennent.
On passe juste à côté du roc qui limite la ville d'Embrun, en bord de la plaine alluviale de la Durance, qui est une terre très riche. Et donc, on est en route vers Montgenèvre. Et ici, on est assez impliqué dans le mouvement NoJO contre les Jeux Olympiques d'hiver de 2030, pour lequel les deux patrons de région, à savoir Wauquiez pour Rhône-Alpes et Muselier pour PACA, ont, en caricaturant à peine, décidé sur un coin de table dans un café de présenter la candidature de la France pour l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver de 2030. Ils sont retrouvés, ils avaient deux adversaires qui se sont retirés sous pression de la population. Mais évidemment, ici, on est dans un pays tellement démocratique que même si les sondages font apparaître une majorité des Français, des gens des Alpes qui sont opposés au JO, n'empêche que, comme d'hab, ils veulent le faire quand même. Voilà, alors on a déjà eu avec le collectif NoJO un certain nombre d'actions ici locales. On aura du mal à obtenir gain de cause, ça c'est sûr. Par contre, on risque d'avoir des Jeux Olympiques en 2030 si effectivement ils arrivent à le faire passer, complètement pitoyable. Parce qu'ici, dans les Hautes-Alpes par exemple, la neige monte de plus en plus en altitude. L'évolution de la limite pluie-neige est actuellement, il me semble, à 2000 mètres, et d'ici 2030, il y a bien des chances qu'elle soit à 2005. Qui aurait des épreuves de prévues à Isola 2000. Isola 2000, c'est la station la plus au sud des Alpes françaises. Elle a été construite sur un couloir d'avalanche, par exemple, d'une part, et d'autre part. Et puis après, il y a tous les aménagements routiers. Par exemple, ici, ils envisagent, dans la vallée de l'Avance, de faire une 2x2 voies, qui est une superbe vallée, où il y a une route simple voie, enfin normale. Et puis ils vont faire comme ça plein d'aménagements. Il y a quand même un certain nombre de bassines qui sont en prévision. Il y en a une à la Roche des Arnauds qui est en cours de construction. J'ai entendu parler d'hier, mais je n'ai pas de détails, qu'il y en aurait en prévision dans le Dévoluy. Il y a aussi toutes les retenues collinaires pour les canons à neige dans les stations de ski. Et je sais qu'il y en a une, de toute façon, de station, qui est alimentée pour les réserves collinaires par pompage dans la Durance. Voilà, donc ce qui pose quand même des sérieux problèmes de répartition et d'utilisation de l'eau.
Actuellement, les flics italiennes ne veulent pas laisser passer nos camarades italiens et italiennes parce que, d'après les gendarmes, il serait une cinquantaine de cagoulés qui menaceraient l'ordre public sur le territoire français. Donc ils ont dit qu'ils ne passeront pas. Mais je crois que là, les États-Unis, ils ont bien l'intention de passer quand même parce qu'ils ont l'air d'avancer sur le poste frontière. Et je pense que ça va gagner dans pas longtemps.
Le lendemain matin, on est parti pour Montgenèvre, retrouver des Italiens qui essayaient de traverser la frontière. Alors, on avait un pique-nique à Montgenèvre. Montgenèvre, c'est le dernier bled en France avant la frontière. C'est intéressant parce que c'est un poste frontalier. Il y a des bassines pour les canons à neige et le golf qui sont juste à cet endroit-là, puisque c'est aussi une station de ski. Donc, c'est vraiment un endroit qui regroupe pas mal de problématiques. Ce qui était assez beau, c'est qu'on est arrivé en convoi. Puis, bien sûr, on s'est fait arrêter par la police qui a voulu contrôler le convoi. Et en fait, la première voiture arrive là-dessus et on nous a tous dit de sortir des voitures. Et du coup, en fait, ça fait un espèce de, je sais pas, il y avait peut-être 30, 40, 50 voitures, j'en sais rien. Plutôt 30, 40, je pense. Et du coup, tout le monde sort et en fait, ça a duré 10 secondes. Ils nous disent, c'est bon, c'est fini, vous pouvez remonter dans les voitures. Le rapport de force était intéressant et en fait, c'est une route de col. Donc, si on bloque une route de col, ça met un bazar pas possible très vite dans les vallées. C'est intéressant de voir que même à pas beaucoup, on peut exercer un rapport de force qui permet de passer une frontière sans difficulté.
La traversée des luttes de l'eau a bien passé la frontière franco-italienne et est arrivée au Presidio de Venaus. Les Presidios, ce sont ces bâtiments installés sur les chantiers pour faire une présence et être une vigie contre les chantiers du grand projet inutile et destructeur du Lyon-Turin. Et là, on s'entasse sous les toits de tôle pour écouter Hermelinda nous raconter l'histoire de ce Presidio de Venaus et avec ça l'histoire de la lutte notable de ces dernières années.
Buonasera a tutti e a tutti, grazie di essere qui. Faccio parte del movimento notable.
Du coup, je fais partie du mouvement notable depuis 30 ans et j'ai vu naître ce Presidio ici qui est né en 2005. Les années qui ont précédé le 2005, 4-5 années avant le 2005, ont été fondamentales parce qu'on a essayé, on a réussi à organiser la lutte sur le territoire. On a fait surtout de l'information dans les territoires, dans les villages, dans les villes, dans la vallée. Et on avait aussi acheté une petite caravane collective pour faire les tours des petits villages pour expliquer nos raisons contre les TAV. Et du coup, cette année-là, ont été vraiment très importants. D'un côté, pour comprendre qu'est-ce que ça allait signifier une œuvre comme la TAV, quel effet elle pouvait avoir. Et aussi pour sensibiliser les personnes, pour comprendre que c'était possible de dire non.
Et abbiamo cominciato questa lotta anche con la collaborazione della parte istituzionale.
La lutte notable a commencé aussi en collaboration avec les administrations locales et aussi avec les techniciens des administrations. Parce qu'en fait, ça, c'était très important pour savoir à l'avance les débuts des travaux, surtout quand il y avait les travaux pour sonder les terrains. Et du coup, anticiper ça nous a permis de présidiare, du coup, d'être là sur le terrain et d'être présent avant qu'ils arrivent avec leurs techniciens et après avec la police.
En gros, moi, je n'avais pas bien compris ça non plus, parce que ça, c'est traversé, ça permet de comprendre plein de trucs. Mais qu'en gros, un tunnel, c'est un peu comme un trou dans une outre, quoi, tu vois. Et qu'en fait, ça fait fuir la montagne, les nappes phréatiques descendent, et c'est comme si on drainait une montagne, alors qu'une montagne, c'est plutôt un endroit où il y a de la réserve de flotte de très bonne qualité. Et qu'on devrait vraiment les préserver au lieu de faire ces stupides tunnels qui, en plus, doublent des tunnels existants. Enfin bref, c'est juste pour gagner un peu de temps et surtout faire bosser des boîtes de BTP qui sont sinon désœuvrées et risquent de mourir de leur désœuvrement.
Qui à Venaus, abbiamo
Et du coup, dans le juin 2005, avant de Venaus, il y avait déjà deux présidis qui étaient à Borgone et Bruzzolo. Et c'était les deux premiers moments où il y a eu une confrontation entre la puissance du mouvement et la contrepart, du coup, entre les mouvements et aussi la police. Parce qu'en fait, la première fois à Borgone, ça a été vraiment la première fois où ils commençaient à comprendre que les mouvements avaient de la force. Et la force, c'était par rapport au nombre, parce qu'on était vraiment très nombreux. Et c'était aussi la première fois qu'il y a eu 400-500 flics qui étaient là, mais c'était dans une dimension pacifique. Et la présence qui était vraiment violente des forces de l'ordre a vraiment fait comprendre aussi aux personnes que les forces de l'ordre étaient là pour occuper, pour être des forces d'occupation dans leur territoire et du coup de se joindre à la lutte. Per occupare la nostra terra e quindi a rafforzare le ragioni della lotta. Quindi arrivando poi qua a Venaus. Du coup après pendant l'été on est venu ici à Venaus et du coup on a fait des campings pendant tout l'été, des campings qui continuent à exister jusqu'à aujourd'hui. Et pour moi, Venaus, c'est vraiment un endroit de mon cœur parce qu'en fait, ici, pendant tout cet été-là, on a eu la possibilité de se connaître, d'avoir des liens entre toutes les personnes qui étaient de la vallée, qui faisaient partie des différents comités territoriaux qui étaient nés autonomement. Et qui après, pendant cette saison-là, ils ont pu se rencontrer et créer des liens très forts. Une vallée à l'entière qui était vraiment déterminée à se reprendre leur territoire.
On a pu aller voir les deux chantiers locaux. Qui sont tout à fait militarisés, puisqu'il y a des grilles de 6 mètres avec des barbelés au-dessus, des razor blades, là, plus de la police très très fortement là, présente à l'intérieur.
On est en train de marcher en direction du hameau des Moulines, le hameau des Moulins à eau, qui se trouve dans la vallée de la Clairière, qui est une des vallées de la vallée de Suse. Et qui se trouve, c'est un petit hameau qui est collé à un des grands chantiers du TAV, du Lyon-Turin, où se trouve actuellement le percement du tunnel, d'un des tunnels du chantier du TAV. Et du coup, c'est le chantier de Chiomonte, et c'est un chantier militarisé, fortifié. Et nous, on se dirige vers ce petit hameau de Moulins, qui a été transformé en présidio du mouvement Notav.
Et donc il y a eu une manifestation un soir, alors qui est plutôt une manif de harcèlement un peu autour d'un chantier. Donc en fait, il y a, je crois, 100 ou 200 personnes qui sont pointées devant une des portes, et puis qui ont envoyé des trucs, enlevé du barbelé, etc.
Derrière, il y a le bois, il y a des roses, donc vous avez entendu parler, qui est occupé, qui est juste là, derrière la barrière.
Passé deux jours à là, et puis ensuite, on est allé à Vicenza, qui est une ville à côté de Venise, à une heure de Venise. Il y avait un camp climat dans un lieu qui est aussi concerné par le TAF, puisque c'est un ancien centre social, enfin un centre social qui est censé être rasé à côté d'un bois qui lui aussi est censé être rasé pour faire passer la LGV. Et c'était très sympa de voir comment ça s'organise là-dedans, de participer à leur manif. Là, moi, j'ai pu aller à une manif de soutien à la Palestine. Qui était chouette, qui a rejoint une manif de contre le TAV ensuite, où il y avait pas mal de monde dans la ville. Et puis on a pu aller poser la barque de Julien dans le marais, dans la lagune de Venise. Et c'était un chouette moment, parce que c'était un peu l'aboutissement de cette folie-là, d'aller mettre cette barque. Nous, on a suivi longtemps, j'étais souvent derrière la barque. Et c'est marrant de voir ce bateau traverser les Alpes pour aller dans la lagune et voilà, y être. Il avait pris la flotte parce qu'il y avait un énorme orage, donc on avait peur que le bateau était un peu abîmé, mais là il a bien tenu. C'est du bon vieux bateau qui tient bien et donc c'était cool de faire ce petit tour. Le le retour, moi j'ai fait d'une traite avec mon pote avec qui j'étais venu, et c'était chouette parce que c'est j'étais content de faire ça avec ce vieux copain, et du coup on a eu 14 heures pour papoter, c'était super.
La dernière pastille, retour de ce grand périple de la Venise verte à Venise, et puis là le convoi est disloqué, on est peut-être les derniers à traîner la patte, il y a pas mal de camarades qui sont restés, qui ont profité d'avoir fait le voyage pour continuer à consolider les relations avec les camarades italiens. Ouais, ça vous fait quoi là, le retour?
Comme tous les moments où on se sépare, il y a un petit peu de tristesse parce que on sait que c'est fini, que ce moment de joie et de partage est terminé, mais en même temps, il y a plein d'espoirs qui sont nés dans les rencontres qu'on a faites et dans les consolidations des liens qu'on a eus.
Et reprise de la vie normale, mais avec plein de chouettes souvenirs, quoi.
C'était la traversée des luttes sur l'eau, mixée par Minuit Décousu, à partir des sons de la méga radio qui a suivi ce convoi, début septembre, de la Venise verte à l'autre Venise. Lâche pas les bonnes idées, c'est pourquoi une nouvelle méga radio se prépare pour suivre la prochaine manifestation des soulèvements qui aura lieu, vous le savez déjà, dans le Bordelais, plus précisément au sud de Bordeaux. Pour dire non au projet de ligne LGV entre Bordeaux et Toulouse, Bordeaux et Dax, qui engendre des aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux et, là encore, des menaces pour la ressource en eau et les rives du Siron. On vous parlera de tout ça en détail la semaine prochaine. En attendant, Étienne est allé s'informer sur le convoi qui se prépare.
Ok, alors nous, on est des militants et militantes. Et donc, dans le cadre de cette prochaine manifestation Freinage d'urgence qui a lieu le 12 et 13 octobre, qui est contre la LGV du Sud-Ouest, un projet pharaonique, on organise quoi ? Dis-nous.
Déjà, on a organisé un convoi vélo pour aller à Mel de Bordeaux à Aubary-Poitevin cet été. Et on s'est dit qu'on allait refaire la même chose.
Rebelote.
Donc, on organise un convoi vélo pour se rendre de Bordeaux jusqu'à une destination qui, actuellement, est encore secrète.
Et si vous avez envie de nous aider à organiser tout ça, on se retrouve pour une réunion d'information le jeudi 3 octobre à la Halle des Douves à 19h. Soyez nombreux, nombreuses, on vous attend.
Allez, et on va pédaler ensemble contre les TGV et pour les trains du quotidien.
Hi-ha !
Si vous voulez participer à ce nouveau projet de radio, une radio de lutte anti-LGV pour le train du quotidien, une radio contre les grands projets inutiles, faites-nous signe en nous écrivant à climatdelutte@laclédesondes.fr. Climat de lutte au pluriel.
Invisible à Sainte-Céline.
Dans notre agenda ce soir, nous parlons d'un agenda, celui que Terre de Lutte vient de mettre en ligne à l'adresse agenda.terredelutte.fr. Pour tout savoir des événements, des luttes locales contre les projets polluants, sur les mobilisations, les manifestations, les temps forts, à noter que cet agenda est un outil participatif. Et si vous faites partie d'une lutte et que vous organisez un rassemblement, n'hésitez pas à l'ajouter en cliquant sur « Créer un événement ». Avant de nous quitter, un dernier son de Minuit décousu, un son de fin d'émission.
Et il est minuit 12 et c'est la fin de Minuit décousu pour cette semaine, mais on se retrouve dès la semaine prochaine, même heure sur les ondes rebelles de Radio Canu, et vous pouvez aussi nous réécouter en rediffusion les mercredis sur Radio Cause Commune en région parisienne.
Et puis d'ici là, vous pouvez nous réécouter sur notre audioblog Arte Radio, vous pouvez nous envoyer des petits messages sur notre adresse mail, sur Twitter, Insta. Vous avez le choix pour nous contacter. Et puis bah, d'ici là, on va vous souhaiter une excellente nuit.
Et comme on disait en 2016, paniquez pas, niquez tout.
Voilà, c'est fini pour cette semaine. À la semaine prochaine.